Le journal d'Haïti et des Amériques, c'est avec Maïwenn Bordereau, bonjour.
Bonjour Edmond, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, l'augmentation du salaire minimum au Mexique dès le 1er janvier. Le nouveau président Andrés Manuel López Obrador l'a annoncé hier. C'est l'augmentation la plus importante depuis 25 ans dans le pays. Réaction en début d'édition. Nous ferons également le point sur les unes de la presse du continent avec notamment les nouvelles révélations du New York Times. Le journal américain révèle aujourd'hui que Facebook aurait donné à Netflix, Microsoft et Spotify l'accès aux messages privés des utilisateurs. Focus ensuite sur le groupe de Lima qui se réunit aujourd'hui à Bogota en Colombie. Au cœur des discussions de ces 14 pays latino-américains et caribéens, la crise au Venezuela qui continue d'inquiéter dans la région. Enfin, notre dossier Haïti aujourd'hui est consacré à l'épidémie du choléra et la responsabilité des Nations Unies dans l'introduction de la maladie sur l'île. Au Mexique, cela fait un peu plus de 2 semaines que le président Andrés Manuel López Obrador a pris ses fonctions et le nouveau président met déjà en œuvre son programme. Hier, AMLO, comme il est surnommé dans la presse mexicaine, a annoncé une hausse du salaire minimum à partir du 1er janvier. Il passera de 80 à 102 pesos, soit l'équivalent d'un euro de plus par jour. Dans la nouvelle zone franche de la frontière nord, le salaire minimum sera même doublé. Il atteindra 8 euros. C'est la plus forte augmentation depuis 25 ans. Alors, qu'en pensent les principaux concernés? Réaction au micro de notre correspondant au Mexique, Patrick Jeunebuff.
Face à cette augmentation du salaire minimum, les Mexicains se montrent plutôt sceptiques, même si certains considèrent que c'est une bonne nouvelle. C'est le cas d'Ubaldo, un étudiant de 22 ans, qui émet pourtant une réserve.
Oui, les Mexicains auront ainsi un revenu plus élevé. Mais il est probable que le coût de la vie augmente proportionnellement à la hausse du salaire, ce qui reviendra au même qu'avant.
En revanche, pour Idalia, une femme de 45 ans, la hausse est bien trop faible.
C'est très peu. On ne peut pas vivre avec 102 pesos. Et pour les familles nombreuses, ce salaire est insuffisant.
Quant à Antonio, un cuisinier de 60 ans, il se demande ce qu'on peut s'acheter de plus avec ces 22 pesos supplémentaires.
Un kilo de tortilla, et c'est tout. C'est tout ce qu'on peut acheter avec 22 pesos, parce qu'un kilo de tortilla coûte actuellement 18 pesos.
Mais alors, quel serait le montant d'un salaire minimum qui permettrait de vivre mieux? La question RFI l'a posé à Amada, une mère célibataire de 42 ans.
Pour vivre dignement, qu'il nous paie au moins un salaire de 300 pesos.
Parvenir à un salaire minimum de 300 pesos, soit 13 euros, c'est justement l'objectif que se sont fixés le patronat et le gouvernement. Mais il faudra attendre jusqu'à 2024. Patrick Jeunebuff, Mexico RFI.
Et le président Andrés Manuel López Obrador a également annoncé qu'il allait réduire son salaire de président. La revue de presse avec vous aujourd'hui, Arim Lipold, bonjour.
Bonjour Maïwenn, bonjour à tous.
Et pour commencer, direction les États-Unis, c'est une révélation du New York Times. Facebook aurait donné à Netflix, Microsoft et Spotify l'accès aux messages privés des utilisateurs.
Oui, le journal donc de New York Times a pu consulter des centaines de documents de Facebook et il en ressort que la société de Mark Zuckerberg a permis à environ 150 entreprises, y compris des banques, de consulter des messages privés, une pratique qui montre que les données personnelles sont devenues un produit très recherché dans notre époque digitale, écrit le New York Times. Selon le journal, Facebook a autorisé le moteur de recherche de Microsoft Bing à accéder au nom des amis des utilisateurs du réseau social, et cela sans autorisation. Steve Satterfield, le directeur de la protection de la vie privée et des politiques publiques de Facebook, a déclaré que les partenariats ne violent pas la vie privée de leurs utilisateurs. Des partenariats qui étaient encore partiellement en vigueur cette année, même si le gros de ces activités se déroulait entre 2010 et 2017, Maïwenn.
À Cuba, Arim, les autorités ont renoncé à inscrire dans la nouvelle constitution des changements qui ouvrent la voie au mariage homosexuel.
Ah oui, raison officielle, opposition d'une majorité de citoyens qui ont été consultés sur ce sujet. C'est ce qu'indiquait le secrétaire du Conseil d'État, Homero Acosta, cité par le site internet du journal Juventud Rebelde. Et bien du coup, le projet de constitution de Cuba ne définira pas quelle personne forme le mariage, a-t-il déclaré. En fait, dans le projet de nouvelle constitution, Constitution, une proposition visait à définir le mariage comme l'union entre deux personnes, ce qui aurait remplacé la formule actuelle plus restreinte qui parle de l'union entre un homme et une femme. D'après le Nouveau Herald, journal de Floride, cette opposition au mariage gay a surpris beaucoup de Cubains pendant les consultations. Les églises évangéliques se sentent beaucoup mobilisées aussi contre ce projet, se joignant à la protestation de l'Église catholique, écrit El Nuevo Herald.
On va au Guatemala à présent. Le Guatemala qui a retiré l'immunité et ordonné l'expulsion de 11 fonctionnaires d'une commission des Nations Unies.
Ah oui, cette commission enquêtait sur des soupçons de corruption à l'encontre du président Jimmy Morales. C'est à la une du journal Prensa Libre. Les autorités ont donné aux enquêteurs de la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala 72 heures pour quitter le pays. Avant, elle leur avait déjà retiré leur visa de travail. Le procureur spécial guatémaltèque Francisco Sandoval, chargé de lutter contre l'impunité, a qualifié cette décision du gouvernement d'abominable. Un autre procureur spécial, cité par Prensa Libre, accuse le gouvernement d'obstruction à la justice. Plus modéré, mais également sur un ton ferme, le chef de la Commission internationale contre l'impunité au Venezuela, Ivan Velasquez, estime que la décision de retirer aux enquêteurs leur visa de travail est, je cite, arbitraire.
On termine par le Brésil. Arim, le président élu Jair Bolsonaro a confirmé que son pays se retire du pacte mondial sur les migrations.
Oui, il a dit lors d'une diffusion en direct sur le réseau social Facebook que Bolsonaro en a également profité pour critiquer la politique d'immigration en France. Le résultat de cette politique est que cela devient insupportable de vivre dans certains endroits en France. Le président élu brésilien a également annoncé que son gouvernement ferait tout son possible dans le cadre de la loi de la démocratie contre les gouvernements cubains et vénézuéliens. Il a répété que ni le dictateur cubain Miguel Díaz-Canel ni le dictateur vénézuélien Nicolas Maduro n'ont été invités à sa cérémonie d'investiture qui aura lieu le 1er janvier prochain à Brasilia. Après tout, a dit Bolsonaro, c'est une célébration de la démocratie, et oui, ajouté l'ancien militaire d'extrême droite.
Merci Arim, vous parliez du Venezuela de plus en plus critiqué et isolé dans la région. La grave crise qui secoue le pays est d'ailleurs au cœur des discussions du groupe de Lima aujourd'hui. C'est un groupe formé en août 2017 par 14 pays latino-américains, caribéens avec le Canada pour trouver une issue démocratique et pacifique à la situation vénézuélienne. Aujourd'hui, les vice-ministres des Affaires étrangères de ces 14 pays membres se retrouvent à Bogota, la capitale colombienne. Bonjour Stéphanie Schuller.
Bonjour.
Force est de constater qu'un an et demi plus tard, la situation vénézuélienne ne fait que s'aggraver. Alors de quoi vont parler les 14 à Bogota aujourd'hui ?
Eh bien, certains de ces pays souhaitent désormais durcir le ton face à Caracas, à l'instar du Pérou, qui proposera aux autres pays membres du groupe de Lima de rompre collectivement leurs relations diplomatiques avec le gouvernement vénézuélien. Pour Isabelle Rousseau, professeure et coordinatrice du programme de l'énergie au Colégio de Mexico, le groupe de Lima
essaie de créer des conditions pour isoler le plus possible Maduro et son gouvernement. Tant que c'est les États-Unis, l'Union européenne, bon, évidemment, c'est les pays capitalistes, impérialistes, donc au niveau de la population, ça s'explique. Mais pour le Venezuela, c'est quand même embêtant d'avoir ses pays frères qui sont contre lui. Donc là, je crois que ça a un impact presque psychologique.
C'est la toute première fois qu'une initiative comme la rupture collective des relations diplomatiques avec Caracas sera soumise au débat au sein du groupe de Lima.
Contrairement aux États-Unis ou encore à l'Union européenne qui ont imposé des sanctions contre le Venezuela pour rupture de l'ordre démocratique et atteinte aux droits de l'homme, les voisins latino-américains ont longtemps hésité à entrer en action. Pourquoi ?
Plusieurs raisons à cela. Paula Vasquez, chargée de recherche au CNRS, estime que ce silence était dû, entre autres, au principe de non-ingérence en vigueur entre les pays latino-américains.
Il y a une question de respect de la politique interne, de la situation interne de chaque pays pour ne pas être accusé d'ingérence dans les affaires internes. La question, c'est que lorsque la crise devient une crise migratoire et qui touche plusieurs pays du continent, là, c'est le système d'alarme qui se déclenche parce que ce n'est plus une crise interne, mais une crise qui touche toute la région.
Selon les estimations du Haut Commissariat pour les réfugiés, en moyenne 5500 Vénézuéliens fuient chaque jour la grave crise dans leur pays. 2 300 000 depuis 2015. L'ONU parle de la pire crise migratoire que le continent ait jamais connue.
Au sein de la communauté internationale, nombreux sont ceux qui désormais voudraient initier une transition démocratique au Venezuela.
Mais deux questions principales se posent. Premièrement, quel est le meilleur moyen pour y parvenir? Sanctions et isolement du régime Maduro ou dialogue? Et deuxièmement, qui pourrait représenter une possible transition au Venezuela? Ce qu'il restait de l'unité entre les différents courants de l'opposition au gouvernement vénézuélien a volé en éclats au printemps dernier, quand la coalition d'opposition s'était montrée incapable de tenir une position commune face à une élection présidentielle qui s'annonçait antidémocratique. La communauté internationale manque donc cruellement d'interlocuteurs.
Et puis il ne faut pas oublier que certains pays de cette même communauté internationale soutiennent au contraire le gouvernement de Nicolas Maduro.
C'est notamment le cas de la Russie et de la Chine, deux pays qui ont concédé d'importants prêts au Venezuela. On parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars pour maintenir le régime à flot. Mais ce n'est pas tout, explique Isabelle Rousseau.
Ils ont aussi des entreprises mixtes dans les gisements de pétrole du bassin de l'Orénoque. Et ils se disent que si jamais le gouvernement de Maduro était renversé, l'opposition qui arriverait au pouvoir pourrait ne pas reconnaître tous ses intérêts. Donc, ils soutiennent bien entendu Maduro.
Fort de cet appui aussi bien financier que diplomatique, le président vénézuélien ne montre pour l'instant aucun signe de faiblesse, constate la spécialiste Paula Vasquez.
La position de Nicolas Maduro, c'est un peu, après nous, les déluges. Il est complètement braqué dans sa position. On ne voit aucune volonté de transition. Il assume ni reconnaît même pas qu'il y a une crise humanitaire. On est dans les dénis les plus totaux.
Et selon les experts, l'exode des Vénézuéliens devrait encore s'intensifier après le 10 janvier, date à laquelle Nicolas Maduro va prêter serment pour un deuxième mandat.
Merci Stéphanie Schuller pour ce focus sur le Venezuela.
Jacques Mel, 96.9 FM.
Plus de 8 ans après le début de l'épidémie du choléra en Haïti, les Nations Unies n'ont toujours pas porté assistance aux dizaines de milliers de victimes de la maladie. Pourtant, ce sont bien les casques bleus népalais de la MINUSTA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, qui ont introduit la maladie sur l'île. C'est ce qui a amené Ricardo Seitenfuss à dénoncer les fautes de l'ONU dans son dernier livre. Ça s'appelle « Les Nations Unies et le choléra en Haïti ». Amélie Baron, notre correspondante en Haïti, l'a rencontré, c'est l'ancien représentant de l'Organisation des États américains en Haïti.
C'est la position prise au plus haut niveau à travers le secrétaire général, son représentant ici en Haïti, l'Edmond Mulet, et le département des affaires juridiques qui contrôle tout le système des opérations de paix. Donc déni absolu, ça veut dire on ne connaît pas dans la base du Mirbalet le choléra, aucun soldat n'est atteint, il n'y a pas de diarrhée, il n'y a pas de vomissement, donc on n'a rien à voir avec cette histoire. En attendant, des milliers de personnes mouraient. Le fait d'avoir apporté le choléra, c'est gravissime. Mais le fait d'avoir nié d'apporter le choléra est plus que gravissime. C'est un crime commis par les Nations Unies avec ce déni absolu.
Après le déni, il a fallu attendre déjà 2 ans pour avoir une commission d'enquête formée par les Nations Unies pour reconnaître une responsabilité peut-être, mais avec un concours de circonstances qui en fait dédouanerait les Nations Unies. Et ce sera finalement en 2016... que les Nations Unies, par la voix de Ban Ki-moon, reconnaissent qu'ils sont coupables, mais qu'ils n'ont une responsabilité que morale, c'est ça. Pas juridique.
Oui, la deuxième phase, c'est celle du concours de circonstances, où on convoque un panel d'experts, des conférences des Nations Unies, et qui font un rapport qui utilise un peu une langue de bois, n'est-ce pas, un langage diplomatique, en cachant plus qu'en montrant, mais qui arrive quand même à une conclusion. Le choléra est bien parti de la base népalaise de Mirbalet. Donc ça, c'est très important. Et on voit alors apparaître également plusieurs images de déversement de déchets humains dans les rivières et dans des fosses septiques non protégées de la pluie. Ils arrivent à dire que c'est un concours de circonstances, étant donné que le choléra arrive dans un pays propice à l'entrée du choléra. Or, si Haïti était propice, il est propice à l'entrée du choléra, c'est une plus forte raison encore pour que les intervenants étrangers prennent garde avec l'introduction d'une maladie étrangère. 2016, au moment de finir son mandat, Ban Ki-moon, peut-être avec un peu de conscience, fait un grand discours, parle en créole, demande des excuses, reconnaît la culpabilité des Nations Unies, mais il y a toujours un mais, toujours un bémol. C'est quoi le mais ? Que la responsabilité n'est pas légale, mais morale. Or, dans mon livre, je prouve que c'est une responsabilité légale, objective du point de vue du droit international et immunité défendue par les Nations Unies de la Convention de Londres de 1946. Cette immunité est due uniquement et exclusivement aux fonctionnaires civils des Nations Unies. J'attire l'attention. Si on accepte cette interprétation des Nations Unies, aujourd'hui, le seul militaire en action dans le monde et qui ne respecte pas les droits de la guerre, ne respecte pas les conventions de Genève, ne respecte pas tout ce qui est écrit depuis Solferino, depuis la guerre des Crimées au 19e siècle, ce sont les soldats au service des Nations Unies. Et cela est inacceptable.
C'est justement un peu la conclusion en fait, de votre livre, que les Nations Unies, qui sont les défenseurs des droits de l'homme sur la planète, sont les seuls à qui les droits de l'homme ne seraient pas imposables.
C'est ça. Et ils ont une excuse toute faite et toute bête, je dirais, qu'ils n'ont été pas signataires, puisque seulement les États signent les conventions. Étant donné cette interprétation abusive, inacceptable de la règle d'immunité, disent qu'ils ne sont pas tenus à le respecter. En fait, ce livre n'est pas contre les Nations Unies. Ce livre essaye de sauver les Nations Unies du gouffre où certains fonctionnaires l'ont enfoui.
Ricardo Seitenfuss, ancien représentant de l'Organisation des États américains en Haïti, il répondait au micro de notre correspondante Amélie Baron. Le journal des Outre-mer avec vous, Benoît Ferrand, bonjour.
Bonjour Maïwenn.
Benoît, on n'en parlait plus depuis quelques temps, mais c'était hélas trop beau pour être vrai, les algues sargasses sont de retour en Guadeloupe.
Oui, elles sont désormais aussi récurrentes et prévisibles que les cyclones, les moustiques ou les impôts. Après un répit relatif de quelques semaines, les terribles algues brunes s'apprêtent à effectuer leur grand retour sur les rivages de toutes les îles de l'archipel guadeloupéen. Éric Lefebvre.
Des bancs de sargasses en approche ont été repérés dès dimanche à proximité des côtes des îles du Nord. Les modèles de dérive de la DEAL, qui prennent en compte les courants marins, ont permis d'estimer à la fois l'importance quantitative de la menace, mais aussi les délais et les zones d'échouage à court terme des radeaux de sargasses observés. Des radeaux très nombreux, qui se sont depuis rapprochés rapidement de l'archipel guadeloupéen. Conséquence, le risque d'échouage a été considéré comme fort pour la Guadeloupe proprement dite, et pour les îles du Sud, un risque fort qui, hélas, commence à se transformer en échouage confirmé. Principale zone impactée, le littoral exposé au courant qui porte les algues, le sud et l'est de la Grande Terre, le sud de la côte au vent et les côtes est des îles du Sud, Terre de Haut, Terre de Bas, Désirade et Marie-Galante, où les premières algues ont été repérées.
Marie-Galante, en effet, et surtout Cap-Esther de Marie-Galante, où depuis 7 ans, aucune solution pérenne n'aurait été trouvée. Les habitants se sentent abandonnés. Écoutez Myri Dumège, secrétaire de l'Association des acteurs économiques de Cap-Esther. Elle a été jointe par Colette Borda.
On a eu un répit d'un mois, mais c'est reparti là encore de plus belle. Et évidemment, il n'y a toujours aucune protection nulle part. Il n'y a pas de barrage. C'est terrible. Mais il ne se passe rien. Il n'y a rien. Il n'y a personne. Voilà. Alors, on nous a annoncé des tas de choses. Mais enfin, bon, les annonces... ça fait 7 mois qu'on nous balade. Hein. On a pris des rendez-vous avec tout le monde, que ce soit au niveau du département, de la CCI, savoir ce qu'ils comptaient faire pour la population qui a disparu, savoir ce qu'ils... comptez faire pour les entreprises qui sont vraiment complètement à zéro, hein, parce qu'après 4 ans d'invasion, il est clair qu'il n'y a plus de fonds nulle part. Là, par exemple, ce qui va se produire, c'est qu'ils nous ont donné un répit de moratoire jusqu'au 31 décembre. À partir du 1er janvier, ils vont nous envoyer les huissiers pour payer les charges, alors qu'on n'a aucune recette depuis 7 mois, mais ça ne dérange personne.
Affaire à suivre, comme on dit. Bon après-midi, Mayouen. À demain.
Merci, Benoît Ferrand. Bon après-midi à vous. Il est 14h30 à Paris, 8h30 à Port-au-Prince. C'est la fin de ce rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Vous pouvez le retrouver sur notre site www.rfi.fr. Je vous dis à demain pour une nouvelle édition sur RFI.